Avec Monseigneur Jacques Perrier.
Avançons dans notre visite de la basilique supérieure et regardons les vitraux des fenêtres hautes de la basilique supérieure. Alors, ils ne sont pas très très clairs pour être francs. Bon, je crois que la basilique attend un jour d'être restauré. Quand même, en voyant bien. Et puis alors, vous avez, si vous visitez, vous avez des petites affiches qui vous expliquent, si, au cas où vous ne verriez pas bien. Bon, et alors, pour regarder une fenêtre haute du côté gauche, il faut aller du côté droit, parce que si vous êtes juste en dessous, évidemment, vous ne voyez rien. Bon, vous voyez bien les fenêtres basses, mais les fenêtres hautes, si vous avez le nez dessous, évidemment, vous ne voyez rien. Bon, donc, il faut aller en face, et regardez bien, il y a des étiquettes qui sont propres, je crois, et bien lisibles, où vous verrez l'explication des différentes scènes. Donc, nous avançons. Et après avoir vu le paradis perdu et la promesse, après avoir vu Noé et la survie de la vie, on pourrait dire d'une certaine façon, après avoir vu Abraham, après avoir vu Moïse et les juges. Ensuite, nous arrivons à la période des rois, avec en particulier deux grands rois, David et Salomon. Alors, David, on le voit avec son instrument privilégié, la harpe, puisqu'on dit de David que c'est aussi l'auteur des psaumes. Alors, il n'a pas écrit les 150 psaumes, peut-être, sans doute il avait une activité, sans doute. Le roi était un peu en même temps le grand prêtre, en même temps, d'une certaine façon. Enfin, c'était, bon. Bref, donc il chante, on n'imaginait pas la liturgie sans les chants, évidemment, donc la harpe. Et donc il chante et danse devant l'Arche d'Alliance. Et l'Arche d'Alliance, eh bien, c'est un des symboles classiques, vous voyez tout à fait, traditionnel pour parler de la Vierge Marie. Bien sûr, dans l'Arche d'Alliance, ce qu'il y a de plus précieux, ce n'est pas l'Arche elle-même, c'est son contenu, c'est les tables de la loi. Les tables, parce que c'est sur ces tables, ces tablettes en fait, c'est pas les tablettes des films américains, bon, c'est pas ça mesure pas 3 mètres de haut, on n'est pas chez Astérix. Hein. Bon. Mais donc sur ces tablettes sont écrites les 10 paroles. On appelle les 10 commandements, les 10 paroles. Donc, d'une certaine façon, c'est la préfiguration de l'incarnation, de la parole faite chair. Déjà, c'est la parole faite écriture, qui se transmet, qui est confiée au peuple d'Israël à destination de toutes les nations. Alors, c'est ça, évidemment, qui est vraiment la plus sainte. Mais évidemment, aussi, l'arche qui contient cet objet infiniment précieux, il est lui-même précieux. On n'imagine pas qu'on ait fait l'arche pour les contenir avec des matériaux plus ou moins frelatés. Et donc, cette arche, c'est la Vierge Marie dans son infinie pureté, pureté de cœur. Bon, car, comme nous dit l'Évangile, c'est toujours du cœur que viennent les choses. Les corps en eux-mêmes, ils sont ni purs ni impurs, ils sont ce qu'ils sont. Tout vient de l'intérieur. Et la grâce, le privilège de l'Immaculée Conception a touché Marie au cœur, pour en faire un cœur totalement libre et capable de répondre oui à la demande transmise par l'archange, demande de l'incarnation. Ensuite, eh bien, vous avez la personnalité du roi Salomon. Et Salomon, c'est celui à qui est prêtée la composition des livres de sagesse, dont le livre du Cantique des Cantiques. Alors, ce Cantique des Cantiques, sans nuptial, semble-t-il, peut-être, je ne sais pas, mais depuis très très longtemps, déjà dans la tradition juive, était déjà appliqué aux relations de Dieu et de son peuple, puisque c'est le symbole fondamental de l'Alliance, c'est bien celui des épousailles. Bon, alors on peut le dire dans l'interprétation chrétienne des Pères de l'Église, ça peut être l'ordination du Christ et de son Église. Bon, ça peut être aussi la relation de Dieu avec chaque âme particulière qui est unique, créée à l'image et ressemblance de Dieu. Et puis, ça peut être aussi Marie. Et on peut appliquer la liturgie, alors ne se prive pas d'appliquer à Marie ce que l'époux, le fiancé, dit de sa fiancée, en particulier cette phrase « Vous êtes toute belle, ô ma bien-aimée, il n'y a pas de tache en vous ». tota pulchra es Maria. Et il n'y a pas de macula, la tâche en latin. Donc immaculé, il n'y a pas de tâche en vous. Donc voilà, Salomon. Salomon aussi qui honore sa mère, on le voit dans un autre vitrail, bon, où il fait asseoir sa mère sur un trône à côté de lui. Elle est venue pour intercéder auprès de lui, donc il la fait avancer, il la vénère, il se prosterne devant elle. Non seulement il lui doit la vie, mais il lui doit aussi son trône. C'est quand même grâce à elle une petite intrigue auprès du vieux David que finalement il a obtenu la royauté. Bon, et donc elle est venue pour solliciter la grâce, ben, justement de l'autre prétendant, Adonias. Alors bon, il l'écoute, oui, mais enfin il répond non, et finalement ça va se terminer par la mort d'Adonias. Donc l'image convient jusqu'à un certain point. Donc il honore sa mère, bon. Comme évidemment le Christ honore sa mère, le grand honneur c'est de lui confier d'ailleurs son disciple bien-aimé comme une espèce d'autre lui-même, donc il la vénère, oui, mais enfin à l'inverse de Salomon, le Christ lui accède aux demandes de sa mère, tandis que Salomon finalement la raison d'État l'emporte sur la piété filiale. Et puis, il y a aussi l'image du trône de la sagesse. Alors, la sagesse, c'est le Christ, mais celle qui est le trône de la sagesse. Alors, c'est pareil entre le contenu de l'arche et l'arche, entre celui qui est assis sur le trône et le trône, ben forcément, il y a une similitude, une analogie. Et puis, je commence tout de suite par une des trois femmes qui figurent dans les fenêtres suivantes. Et trois femmes qui ont sauvé Israël. Alors, il y en a deux, de façon, on pourrait dire, un peu brutale. C'est Yaël et Judith, et puis une qui sauve plutôt par sa beauté, ce sera Esther. Alors, disons un mot tout de suite de Yaël. Alors, Yaël, le peuple est menacé, etc. Bon, les armées veulent pas y aller, y compris le chef d'armée. Il dit non, oula, moi j'y vais pas. J'y vais si t'y vas. Bon, alors, et elle dit bon, j'irai, d'accord. Bon, et donc finalement, grâce à un subterfuge, elle trouve le général des troupes ennemies. Et donc finalement, il s'endort, endormi dans une tente, etc. Bon, et donc elle va prendre un piquet de la tente, un marteau, elle l'enfonce dans le crâne de ce brave homme, qui était peut-être pas très brave, et donc par là, évidemment, elle a sauvé Israël. Donc c'est une manière un peu expéditive et un peu brutale, quand même, le diront. Voilà, donc c'est Yaël. Les deux autres sont plus des autres exemples que je dirais dans l'émission prochaine. Judith et surtout Esther, préfigurent de plus près la Vierge Marie.